France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Combien de téléphones sonnent avons-nous fait autour de ma prime rénov? Le dernier, figurez-vous, assez récemment. Les retards de paiement, les artisans en difficulté, les propriétaires aussi. Et le maquis, surtout, des règles à suivre et à comprendre pour remplir son dossier. Voilà donc encore une tuile sur un dispositif que vous avez adopté, que vous souhaitez pour rénover vos maisons, vos appartements aussi d'ailleurs, mais qui a souvent eu du mal à trouver sa fluidité et, disons-le franchement, vous a parfois rendu dingue. La tuile, c'est donc la suspension annoncée par le ministère de l'économie, rattrapée au vol par celui du logement. Suspension ne veut pas dire fin. Le temps de lutter donc contre les fraudes. Message reçu, mais alors qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on se dépêche de déposer un dossier pour sa pompe à chaleur avant le 1er juillet? Qu'est-ce qui me garantit que mes travaux seront faits quand le dispositif va repartir? Est-ce que je toucherai quand même ma subvention si je fais partie de ceux qui l'attendent depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs semaines? Qu'est-ce qui me garantit que le dispositif repart avec la même enveloppe? Est-ce qu'on va encore tout remettre sur la table, rénovation complète contre monogeste? Et comme en général, un problème n'arrive jamais seul, dans le même temps, la Cour des comptes étrit les DPE, les notes énergétiques de vos logements, et c'est vrai que ça vous agace sûrement d'être classé G quand votre voisin qui a exactement le même appart que vous est classé D. Il faut remettre de l'ordre, voire un ordre, des diagnostiqueurs, c'est ce que le ministère du logement a annoncé pour atténuer le constat de la Cour, et nous y viendrons aussi. Et puis, plus les logements, ça va ensemble, sont interdits à la location, plus il y a de problèmes de location sur le marché. Nous parlerons, si vous le souhaitez également, de votre difficulté récurrente à trouver une location où que vous soyez en France. La construction du neuf va un peu mieux, juste un peu mieux, pas beaucoup plus, mais enfin quand même, et c'est aussi ce qui freine le renouvellement des logements et du parc immobilier. Bref, il y en a des questions et des sujets logement pour la ministre Valérie Létard, que je salue. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de répondre aux questions des auditeurs d'Inter. C'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, Clémence, c'est vous et je vous salue. On vous écoute. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je voulais livrer un témoignage. Finalement, j'ai signé un compromis de vente et j'avais pris la peine d'aller à pleine commune pour savoir si je pouvais bénéficier de ma prime rénov puisque le bien que j'achète est classé G. Finalement, j'ai signé ce compromis et il s'avère que je ne vais pas pouvoir en bénéficier ou que c'est remis à beaucoup plus tard. Donc c'est un projet de vie qui s'effondre un peu, ça tombe comme un coup près, je suis stupéfaite en fait. Hein, je suis seule, veuve, et j'ai pas. Enfin voilà, je vais me retrouver avec un bien qui est un grille-pain dans lequel je voulais installer un poêle à bois et l'isoler, et ça va pas être possible. Donc je suis stupéfaite en fait, je me retrouve dans quelque chose.
Eh bien, on a entendu votre stupéfaction, Clémence, c'est par là qu'on va commencer. Merci beaucoup, merci de votre participation au téléphone sonne. Valérie Létard va donc vous répondre. Ministre chargée du logement, je voudrais vous présenter Claire Chaudière, quand même, du service économique de
Bonjour,
France.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Claire, bonsoir à vous aussi, c'est vous qui traitez les questions de logement. Stupéfaction, Valérie Létard dit notre auditrice. Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure en lancement, il s'en est passé des choses autour de ma prime de rénov, hein, un peu un coup oui, un peu un coup non, les monogestes, les pas monogestes, les difficultés, les dossiers, et là, boum, suspension. Ça fait beaucoup pour un seul dispositif, non ?
Et oui, et c'est vrai que c'est une réalité qui marque ce dispositif ma prime rénov, qui, en fait... est né et a pris une véritable ampleur après le vote de la loi climat. Donc c'est pas si vieux que ça, en fait. C'est un dispositif qui est très vite monté en puissance, mais qui connaît des ajustements successifs parce que il concerne un sujet extrêmement vaste et qui a adopté plusieurs clés d'entrée. Les monogestes, je change un geste à la fois, rénovation d'ampleur. Ouais.
Mais là, ça s'arrête d'un coup et au fond, on ne sait pas très bien pour combien de temps, Valérie Létard. Est-ce que vous pouvez nous assurer, si ça s'arrête au 1er juillet, qu'au 1er septembre, Clémence va pouvoir repartir?
D'abord, vous dire que 2,5 millions de ménages ont déjà bénéficié de ma prime rénov.
Ça, c'était qu'aujourd'hui, pas ma question, mais je vous en prie.
Non, mais quand même, je voulais le rappeler pour terminer mon propos. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons défendu dans le cadre du budget 2025, une enveloppe dans l'ANA, dans l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, dédiée à ma prime rénov de 3,6 milliards d'euros, qui seront dépensés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune coupe budgétaire.
Alors attendez, pardon, je vous interromps. Est-ce qu'on est au bout de cette enveloppe ou est-ce qu'il reste
Absolument
de l'argent dans cette
pas.
Enveloppe?
Aujourd'hui, nous en sommes à 1,3 milliard d'euros d'enveloppes consommées. Ce qui veut dire en clair qu'aujourd'hui, on va essayer de procéder dans l'ordre. Effectivement, diverses communications ont été faites pour dire que nous allions suspendre MaPrimeRénov'. Il y a derrière cela, effectivement, un sujet sur lequel je souhaitais m'exprimer fin juin pour expliquer comment, sur un dispositif qui, aujourd'hui, connaît un succès inédit, triplement des dossiers de rénovation d'ampleur depuis le début de l'année, aujourd'hui, nous avons 38 000 dossiers d'ores et déjà instruits est prêt à être mis en œuvre et financé, accepté par MaPrimeRénov'. Il y avait 11 000 dossiers de rénovation d'ampleur autorisés, engagés l'année dernière à la même époque. Aujourd'hui, nous allons continuer à instruire les dossiers jusqu'à la suspension qui aura été identifiée, donc suspension temporaire.
Pardon, donc elle n'a pas été identifiée la suspension? Est-ce que c'est 1er juillet? Moi j'ai lu 1er juillet, mais peut-être que j'ai mal lu.
D'ici au 1er juillet, nous allons suspendre temporairement, d'accord, MaPrimeRénov', et non définitivement, okay, comme j'ai pu l'entendre, ou pour 6 mois, pour la reprendre mi-septembre.
Okay.
Pourquoi nous faisons ça? Triplement des dossiers. Ce qui veut dire quoi? Allongement du temps d'instruction. On est passé de 70 à 100 jours. Vous triplez le nombre de dossiers, j'ai pas triplé le nombre de personnel instructeur pour gérer ces dossiers. Quand on triple le nombre, il y a une surchauffe.
Donc vous êtes plus
il y a des difficultés pour les ménages qui attendent effectivement impatiemment.
Valérie Létard, vous avez été pris de court, en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est aussi ce que nous disent les gens quand on fait des émissions autour de MaPrimeRénov'. C'est tout se passe bien, mais j'attends que l'argent tombe, effectivement, pour pouvoir payer l'artisan, c'est compliqué, les dossiers sont très longs. Est-ce qu'on peut dire simplement qu'on a été victime de son succès? Et
victime de son succès,
ça veut dire que ça traîne et victime des fraudeurs.
Victime de son succès, ça veut dire que il y a, de façon inédite, encore une fois, dans la même période, en 2024, début 2024, premier semestre, il y avait un tiers de dossiers. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lire dans le marc de café. Pourquoi les ménages d'un seul coup et d'un seul se sont mobilisés fortement sur la rénovation d'ampleur plutôt que sur les
ménages? Mais parce que le gouvernement les a encouragés, Madame Létard.
Mais bien sûr.
Non, mais attendez.
Mais ni plus ni moins qu'ils ne les avaient encouragés l'année précédente. Simplement, il y a une montée en puissance. Et d'ailleurs, nous instruisons et nous paierons les dossiers qui ont été déposés. C'est ce que je veux dire pour rassurer cette dame. Et cette dame qui nous dit « Qu'est-ce que je vais faire avec ma passoire G si je n'ai pas d'aide de MaPrimeRénov' ?» D'abord, d'ici le 1er juillet, nous suspendrons le guichet. Pourquoi ? Pour refroidir la machine, instruire les dossiers, on est bien d'accord. Travailler aussi sur la fraude, parce qu'on suspecte quand même, c'est plus que suspecter, on identifie environ 16 000 dossiers, à peu près 106 opérateurs, sur lesquels on va envoyer une task force. Mais on a besoin pour ça de la proposition de loi de M. Cazenave, parce qu'on ne pouvait pas croiser les fichiers et on avait besoin d'outils que nous apporte cette loi pour lutter contre les fraudeurs. Et troisièmement, on a aussi 2 mois de retard à l'allumage lié en fait à la censure, qui ont fait qu'on a eu un empilement des dossiers. Je termine. Et donc, pour cette dame, elle pourra... Le guichet n'est pas fermé, elle peut déposer son dossier d'ici la suspension. Et j'ai bien dit que mi-septembre, nous reprendrons effectivement la mécanique et elle pourra déposer un dossier lorsque la machine va se remettre en route à la rentrée.
Claire Chaudière.
Alors, je pense qu'on va prendre le temps à parler de ces problématiques de fraude. Vous allez nous expliquer, effectivement. Simplement, avant quand même, je voudrais qu'on rembobine un peu le film. Ça fait des années qu'on a un objectif à atteindre qui est gigantesque, qui est atteindre d'ici 2030 600 000 à 900 000 rénovations globales pour atteindre la trajectoire qu'on s'est fixée, que le gouvernement s'est fixée. Et on ne cesse de dire, les ménages sont frileux, n'y vont pas, etc. Et là, on a enfin cette montagne qui est en train d'être gravie. On franchit un cap important et le gouvernement dit stop. Ça paraît, du point de vue du grand public, ça paraît un peu incompréhensible.
Il dit absolument pas stop.
Il dit, on a compris qu'il était débordé et que donc il est obligé de s'arrêter parce qu'il a fait surchauffer une machine à qui il a demandé, c'est ce que disait Claire, d'alimenter la chaudière tout de même. Avec autre chose, je voudrais rajouter une petite mezzanine à cette question, comme ça vous pourrez répondre aux deux à la fois. Il y a des obligations sur les DPE, les diagnostics énergétiques, qui justifient aussi que les gens fassent des rénovations de maison. Donc les échéances de DPE, eux, ne bougent pas. Donc les appartements classés G sont toujours interdits à la location, et ils le sont depuis là maintenant plusieurs mois. Mais néanmoins, pour les rénovations, il faudra attendre, même si c'est juste une suspension. Donc effectivement, on peut comprendre que les gens se disent, c'est pas sérieux.
3,6 milliards d'euros de budget, c'est ce qui a été voté par le Parlement comme moyen disponible pour mettre en œuvre MaPrimeRénov'. C'est conséquent, quand vous regardez le budget de l'ANA, c'est une progression, en tout cas sur MaPrimeRénov', on atteint 4 milliards d'euros, et très honnêtement, effectivement, il y a une montée en puissance des dossiers, mais il y a aussi une petite surchauffe, une inflation des dossiers de rénovation d'ampleur. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, en moyenne, une inflation du coût des travaux de 7,5%, ce qui n'est pas le niveau de l'inflation.
On va y revenir, mais juste pendant les débats budgétaires, vous avez quand même dit, si l'enveloppe est entièrement consommée, le gouvernement décidera d'une rallonge. Je me souviens de ce moment-là, parce qu'il y avait déjà eu un coup de rabot sur le budget de MaPrimeRénov', vous étiez très affirmative. Ça, c'est plus du tout à l'ordre du jour.
Ce que j'ai dit, c'est qu'on a avait dans le budget des autorisations d'engagement à hauteur, en fait, d'une hauteur de 2,3 milliards et 2 milliards en crédit de paiement, côté État. Ce que j'ai dit, c'est que quand on a une différence entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, l'État vient compléter l'enveloppe en fin de gestion. C'est ça que ça veut dire, exactement, pour être très précise d'un point de vue technique. Ça veut dire qu'en fait, entre ce qui avait été dit comme objectif à atteindre et les crédits qui avaient été budgétés, le reste, le gouvernement peut les financer en fin de gestion.
Mais on voit bien c'est que le contexte budgétaire qui a été pris est extrêmement compliqué. Là, on est dans un contexte où écoutez, les arbitrages de votre côté sont extrêmement compliqués à gagner, on l'imagine.
Moi, je suis ministre du Logement. Moi, j'ai entendu... On suspend.
Donc vous avez entendu, ça veut dire que vous l'avez entendu du ministère de l'économie. Votre décision, on est d'accord.
On suspend.
Est-ce que c'est votre décision ou pas, Valérie Létard, ou est-ce que c'est celle du ministre de l'économie que vous avez découverte?
Je vais vous dire, on suspend d'ici le 1er juillet le dispositif sur une volonté de travailler communément validée par Matignon sur un dossier sur lequel on a décidé qu'on reprenait la mécanique et non pas qu'on l'arrêtait jusqu'à la fin d'année. Non, moi je parle d'un article qui a été donné par le Parisien, je ne parle pas du ministre.
Ouais.
Donc on a dit que au
Je voulais juste m'assurer que c'était bien votre décision, à vous aussi, ministre chargé du logement, et pas seulement quelque chose qui vous arrive du ministère de l'économie, c'était ma question.
Toute décision fait l'objet d'arbitrage interministériel. La volonté du ministre du logement, c'est d'aller le plus loin possible sur MaPrimeRénov'. Le plus loin possible sur MaPrimeRénov', dans le contexte, tout en sécurisant les bénéficiaires, les usagers et les entreprises, c'est-à-dire pas laisser dériver les choses, c'était de refroidir la machine, mais d'assurer tout le monde qu'on pourra redémarrer mi-septembre. Et le rôle de la ministre du logement, c'est de se battre pour ça, pour les usagers et pour les artisans.
Et les usagers, les artisans, ils sont justement en ligne au téléphone, sonne notamment Franck. Bonsoir Franck.
Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir. Moi je voulais vous dire, je suis en plein dans le parcours de MaPrimeRénov'. Et au vu des revenus donc, que j'avais eus en 2023, moi j'ai été classé dans les revenus très modestes. J'ai pris la décision de me lancer dans la demande d'une prime pour faire une rénovation d'ampleur. Et au cours de ce parcours, en fait, on a l'obligation de faire appel à un accompagnateur Rénov. Moi j'ai commencé avec cet accompagnateur Rénov qui m'a bien plu, mais il m'a quand même demandé 400 euros pour m'inscrire chez lui. Il est venu faire un audit énergétique à la maison, ça m'a coûté aussi 800 euros, et moi étant avec des revenus modestes, c'est quand même une somme, j'ai aujourd'hui moi versé 1200 euros, et je suis aujourd'hui à l'étape en fait de déposer des devis. C'est pas encore finalisé parce que les devis correspondent pas tout à fait à ce qui était vu dans l'audit énergétique, mais là je me dis aujourd'hui qu'à cause de quelques gens malhonnêtes, en fait j'ai l'impression de me faire avoir. J'ai versé 1200 euros et je me demande ce qui va se passer pour moi aujourd'hui.
Merci pour votre intervention, Franck. Je peux comprendre l'inquiétude et la confiance qui tangue en fait, de la part de gens qui investissent de l'argent, même s'il le dit, Franck, il y a droit et probablement qu'il aura d'ailleurs une belle somme puisqu'il est un revenu modeste. Mais le niveau de confiance a baissé, Valérie Létard. Comment est-ce qu'on remet ça à niveau?
Déjà, dire à monsieur que... D'abord, quand on a des revenus modestes, voire très modestes, en fonction de ces revenus, on a une prise en charge partielle plus ou moins importante pour justement financer l'accompagnateur Rénov. Donc normalement, s'il a des factures, il se rapproche de la Maison France Rénov, du guichet le plus proche de chez lui. Il sera conseillé, accompagné sur les financements dont il peut disposer pour être dédommagé d'une partie du coût. Deuxième chose que je veux lui dire, s'il a déposé un dossier avant la suspension, effectivement, que nous allons faire, son dossier sera instruit. Mais il faut que le dossier soit déposé. Je ne sais pas à quel stade est son dossier.
Est-ce que ça veut dire que les gens ont intérêt à déposer un dossier avant le 1er juillet ? En fait, s'ils veulent que ce soit instruit vite, ensuite, lorsque vous allez reprendre, est-ce qu'on a plutôt intérêt, effectivement, à faire une vraie pause ? Donc à attendre le mois de septembre, y compris pour déposer son dossier ou pas ?
Aujourd'hui, de toute façon, moi, je viens de le dire, on refroidit la machine. On arrête d'ici le 1er juillet. Donc, s'il veut déposer son dossier avant le 1er juillet, il peut le faire. Il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, le guichet n'est pas fermé. On instruit les dossiers qui seront arrivés. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder quelles ont été les dérives du dispositif. Parce que quelques dérives, il y en a. Je vous les ai citées. Mmh. Il faut les corriger parce que on ne met pas 3,6 milliards d'euros d'argent public pour qu'il y ait effectivement des dysfonctionnements et que ça ne bénéficie pas au plus grand nombre. Donc nous allons recalibrer les choses pour pouvoir redémarrer en donnant des règles du jeu claires le plus tôt possible dans l'été à tous les opérateurs et à tous ceux qui vont renseigner les ménages sur les règles du jeu.
Donc est-ce qu'on change les règles du jeu par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui ?
On redéfinira un cadre parce qu'on ne peut pas laisser les choses s'infléchir.
Donc il va y avoir un nouveau cadre pour MaPrimeRénov.
On va retravailler avec le secteur, c'est-à-dire avec les entreprises, avec les parlementaires,
Donc vous remettez à plat, donc rediscussion avec les artisans, par exemple. Est-ce que ça veut dire que on revient au monogeste, on n'est plus dans la rénovation
globale ?
Comme
je l'ai dit dans la communication que j'ai déjà formulée, mon objectif, c'est de faire en sorte que mi-septembre, nous revenions. D'abord, on n'arrête pas la rénovation, par exemple, des copropriétés pendant cette période. Donc ça continue. Et que les rénovations d'ampleur, comme les monogestes, nous les redémarrerons à la rentrée. Simplement, nous allons faire en sorte que, par exemple, il n'y ait plus de stop and go. Il faut changer les règles du jeu. Pourquoi plus de stop and go ? Ça veut dire qu'il faut, en fonction d'une enveloppe donnée, regarder comment on rythme dans la temporalité, tout au long de l'année, le nombre de dépôts de dossiers pour que, justement, nous n'ayons plus ces effets de montée en puissance massive, puis de chute parce qu'on arrête, mais bien d'avoir un travail mené conjointement avec les services de l'État, les collectivités, sur une enveloppe qui sera, quand vous avez 4 milliards d'euros, vous n'avez pas 10 milliards d'euros, et de rythmer la consommation de cette enveloppe au fur et à mesure sur les rénovations d'ampleur, comme sur les monogestes, avec aussi des modalités de prise en charge que nous allons retravailler avec le secteur.
Donc, ce qui est un peu fou quand même, c'est qu'il y a un an et demi, on avait cette réforme qui justement avait comme mot d'ordre d'arrêter le stop and go. 6 mois plus tard, on remet des monogestes, des travaux simples, en plus des travaux d'ampleur. Et puis un an plus tard, encore, on s'arrête. Bon, c'est vrai que c'est quand même, au moment où vous arrêtez, vous dites, on ne va plus arrêter. Mais en même temps, on est en pleine...
Soit, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Ou on continue jusqu'à épuisement de l'enveloppe. On continue à aggraver...
Elle se serait arrêtée quand, là, l'enveloppe, si la dynamique s'était poursuivie
dans les prochains mois ? Si vous multipliez par 3, 4, est-ce que quand vous avez 3 000 euros de salaire, vous dépensez 6 000 ? Non. Donc, quand vous avez 4 milliards de budget, donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'à un moment donné, soit on continue, effectivement, jusqu'à la montée en puissance multipliée par 3... Allez, peut-être fin octobre, on estime, parce qu'on ne sait pas, mais avec
octobre,
en plus...
Il n'y avait plus d'argent sur MaPrimeRénov.
Surtout, ce que ça veut dire, c'est quand vous avez un triplement des dossiers qui s'accentue, si vous ne maîtrisez pas cette montée en puissance, si vous ne calibrez pas cette instruction comme on souhaite le faire, eh bien, au bout, c'est plus 100 jours, c'est 120 jours, 130 jours, et à ce moment-là, vous mettez en péril les artisans, les entreprises et les bénéficiaires. Nous, ce qu'on veut, c'est reposer vraiment une mécanique qui soit beaucoup plus prévisible, beaucoup plus partagée, sans rogner sur les moyens et au bénéfice des usagers et des entreprises pour éviter ce stop and go.
J'entends bien ce que vous dites, Madame Letta, mais je reviens à ce que disait Claire au début. Vous vous êtes fixé un objectif. À ce moment où l'objectif a été fixé, on sait le diviser par le nombre de travaux qu'il y a à faire, le nombre de maisons, de communes et tout ce que vous voulez qui sont concernées par les travaux. Et on voit bien ce que ça veut dire. On voit bien ce que ça va engager. Donc je suis d'accord avec vous. Il y a une enveloppe, il y a un maximum, évidemment. Mais on sait aussi, quand on demande par exemple aux gens de faire des travaux globaux, que ça va coûter plus cher et que donc l'enveloppe va être vidée plus vite. Donc à ce moment-là, on se dit, pour que ça dure plus longtemps, on décide de faire des gestes qui sont plutôt des monogestes. Et là aussi, un jour, on a dit global, et puis on a redit monogeste, et puis on redit global. Les artisans disent plutôt monogeste.
Vous avez...
Ça est un peu improvisé quand même, d'un arrêt à l'autre, non ?
Rénovation globale et monogeste, c'est comme ça, c'est ce qui a été décidé au début et qui va se continuer jusqu'au bout. Ce sont deux dispositifs différents qui ne s'adressent pas aux mêmes besoins. Il y a des logements qui ont besoin d'une rénovation d'ampleur pour être conformes à une étiquette attendue, avec des ménages qui souhaitent faire des travaux d'ampleur. Puis vous avez des ménages quelquefois plus modestes, qui ont des plus petits besoins, qui vont avoir envie de faire une année l'isolation, l'année suivante pouvoir installer une chaudière, une pompe à chaleur, et avoir recours à un artisan sur un monogeste ou sur un parcours accompagné. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ménages qui souhaitent plutôt avoir recours à un geste une année, puis y revenir peut-être deux ans plus tard pour aller chercher d'autres travaux qui vont compléter cela. Et les deux ne s'opposent pas. On peut avoir la rénovation globale et les monogestes, et c'est bien cela que nous voulons continuer à travailler.
Allez-y Claire, et puis on retourne au standard.
Simplement le message de Franck, il parlait quand même de mon accompagnateur Rénov, qui est quand même un peu la réforme d'il y a un an. C'était justement comment fiabiliser le dispositif par rapport à ces rénovations globales, comment avoir des interlocuteurs fiables qui permettent d'avoir des devis fiables. Et on se rend compte aujourd'hui, et vous l'avez dit, vous cherchez des solutions via la proposition de loi de Thomas Cazenave, on se rend compte qu'ils sont en fait, qu'ils ne sont pas irréprochables, qu'il y a visiblement des choses étranges qui se passent du côté des accompagnateurs Rénov. C'est ce que vous avez constaté ? C'est ce que vous allez chercher ?
Eh bien, moi, je ne juge pas sans avoir les éléments qui me permettent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a identifié des suspicions, en tout cas des dysfonctionnements.
De quel ordre ?
Ça peut être des factures surestimées, des audits dont les étiquettes ont été sur- ou sous-évaluées, des choses en tout cas qui nous remontent, parce qu'on est en contact avec les intercommunalités. J'ai moi-même été présidente d'agglomération, j'ai été en situation d'instruire tout ça. Et donc moi j'ai des contacts et on me remonte certains dysfonctionnements. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On n'avait pas les outils suffisants, on a déjà quand même évité, l'année dernière, 229 millions d'euros de dossiers frauduleux qu'on a retirés. Cette année, on a mis sur le côté 16 000 dossiers qu'on suspecte. Mais on a besoin des outils pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait ? On est en train, effectivement, de poser la question, comment fiabiliser les accompagnateurs Rénov ? Vous avez dit tout à l'heure, madame, que sur les diagnostiqueurs, j'avais mis en place un plan pour essayer de sécuriser, fiabiliser le métier de diagnostiqueur. Depuis que je suis arrivée dans un système où on avait massifié ma prime Rénov. Moi, depuis que je suis arrivée, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de sécuriser, d'organiser, et un sujet après l'autre, de régler des problèmes qui sont maintenant liés au fait que la machine est en train de s'organiser, mais les cadres ne sont pas suffisamment sécurisés. Donc si on veut que cette politique auquel je crois, qui est importante, dure, serve le plus grand nombre et soit beaucoup plus sûr, fiable et anticipable, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un truc qui monte et qui descend, eh bien, on prend les mesures. Ces mesures, c'est ce qu'on a décidé de prendre pendant la période de l'été, mais certainement pas pour arrêter et certainement pas pour ne pas recommencer en septembre. C'est pas la volonté de la ministre du Logement, croyez-moi.
On a compris que c'était aussi une histoire de cadre et on y reviendra dans un instant. Je voudrais qu'on écoute Mélanie, qui est dans les professionnels qui travaillent justement sur ces questions. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Je voulais simplement intervenir pour témoigner en tant que professionnelle qui intervenons sur les chantiers de rénovation énergétique et effectivement qui constatons une lourdeur dans ces dossiers qui prennent énormément de temps. Et je pense que les artisans, les maîtres d'œuvre et beaucoup de professionnels du bâtiment ont des solutions à proposer justement pour faire baisser la température et retrouver un rythme d'instruction qui soit plus simple, parce qu'en fait on sent que les dossiers parfois sont très compliquées. On nous fait refaire des dossiers à de nombreuses reprises, parfois pour des petites lignes ou des subtilités de devis qui sont quand même très anecdotiques. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur le réseau des entrepreneurs, des artisans, des maîtres d'œuvre, des architectes qui sont formés à ces questions et qui ont un vrai regard de professionnel pour trouver des solutions et être efficaces dans la massification et la rénovation énergétique.
Merci.
C'est vraiment important de s'appuyer sur les professionnels.
Merci beaucoup Mélanie, elle qui est architecte, Valérie Létard, puisque vous allez remettre un certain nombre de choses sur le tapis, c'est comme ça que je l'ai entendu, pour remettre des cadres. Est-ce que ça fait partie de ce que vous allez rediscuter, resimplifier à nouveau, puis surtout demander aux professionnels comment avancer mieux?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je suis déjà en contact avec nombre de leurs représentants, que ce soit la Fédération française du bâtiment, la CAPEB et tous les autres, tout le secteur mobilisé et intervenant dans le cadre de MaPrimeRénov', et ils sont nombreux, je les réunirai d'ici 10 jours au maximum, dans leur forme large, pour partager et travailler avec eux sur la façon dont on va aborder cette séquence, ce travail sur comment éviter les fraudes, comment recalibrer justement pour sécuriser toute la mécanique. C'est avec eux, mais aussi avec tous les parlementaires qui sont sensibles au sujet de MaPrimeRénov'. Vous savez, beaucoup de parlementaires travaillent avec nous, sont les spécialistes de ces questions. On veut les associer aussi à ce travail. Comme je l'ai toujours fait depuis le départ, c'est avec les acteurs et les professionnels qu'on va regarder cette partie-là. On a commencé à discuter avec eux déjà, mais on va poser les sujets. D'ici à fin juin, on les aura rencontrés et posé les jalons de la façon dont on va remonter notre stratégie de travail en commun.
Claire.
Mais visiblement, ils sont très 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 en colère. Vous avez entendu Olivier Salleron ce matin, le président de la Fédération française du bâtiment.
Je dis,
on a des grues, on va descendre dans la rue et on va vraiment se faire entendre. C'est rare quand même qu'il dise ça.
Il défend sa profession et il a raison.
Il a peut-être peur qu'à l'automne, Bercy dise la situation est très critique, on ne peut pas rouvrir le guichet. Peut-être qu'il a peur de ça.
Ce que je peux vous dire, c'est la ministre du Logement qui s'exprime. Moi, je trouve qu'ils font un boulot formidable. Je les soutiens complètement. Ils ont raison de défendre leur profession. Et moi, je les défends. Et donc, croyez-moi, je suis déterminée à faire en sorte de le faire avec eux et d'essayer de tout faire de mon côté. Et j'ai échangé en tout cas sur les propositions que je viens de vous formuler. Je les ai évidemment fait valider et partager avec Matignon. C'est bien le calendrier dans lequel je vais travailler et je vais les défendre et je travaillerai avec eux.
Une question sur WhatsApp. Madame la ministre, est-ce que le gel de MaPrimeRénov' implique aussi un gel des obligations liées au DPE ?
Aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui est la proposition qui a été portée au Sénat par Amel Gacquer, qui permet, tout en maintenant le calendrier DPE, c'est-à-dire le calendrier DPE pour le grand public, ça veut dire que toutes les passoires thermiques étiquette G, depuis le 1er janvier 2025...
sont interdites à la location.
Non, elles ne sont pas interdites. Si vous les louez...
Ah oui, si vous êtes déjà dedans, oui, vous pouvez rester. Mais
voilà,
du coup...
mais si vous les louez, encore, alors que vous n'avez pas fait les travaux, vous êtes vous pouvez vous retrouver avec un recours de votre locataire vous intimant de faire les travaux.
Donc s'il y a un gel des travaux liés à MaPrimeRénov', y a-t-il un gel du DPE ?
Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette proposition de loi a, tout en gardant cette borne, en fait, à l'intérieur, des dispositions qui permettent, tout en respectant ce calendrier, de donner le temps aux propriétaires de mettre en œuvre les travaux sans se retrouver impactés, tout en gardant cette exigence d'être au rendez-vous de la rénovation thermique des logements. En clair, joindre les deux bouts, donner de la souplesse, sans renoncer à l'exigence de rénover les passoires thermiques. Ce texte, il a été adopté au Sénat, il doit être inscrit à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, j'ai demandé au ministère chargé des relations avec le Parlement de l'inscrire en session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse suivre sa navette, pour justement sécuriser, assouplir un dispositif sans renoncer à l'exigence. En clair, permettre de continuer la trajectoire d'une rénovation thermique en entendant la vraie vie, les difficultés des gens et en faisant en sorte que, voilà, trajectoire environnementale et ambition et portage des projets soient au rendez-vous.
Rapidement, Claire.
Sur cette question du DPE, on sait qu'il y a énormément de lobbying pour essayer de justement repousser le calendrier. Est-ce que vous craignez pas que là, cette suspension devienne un argument pour les opposants à ce calendrier très serré. Voilà. Est-ce que vous craignez pas que, ben voilà, ils aient enfin les arguments pour obtenir un étalement du calendrier ?
Oh, il n'y avait pas besoin de cet argument-là pour susciter des moratoires, des propositions de loi. Elles sont nombreuses, elles existent déjà. Donc le sujet, il y a vraiment la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat, elle a ce mérite de maintenir une ambition de la loi climat.
Elle ne bougera pas.
Bah, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit maintenant examinée à l'Assemblée nationale, débattue, amendée, mais qu'elle permettra de joindre les deux bouts.
Ce que vous dit la Cour des comptes, notamment Valérie Létard, c'est oui, les passoires thermiques, évidemment, faire en sorte qu'elles soient réparées et que surtout on ne puisse pas les louer si elles sont en très mauvaise qualité, mais du coup on a baissé d'un pourcentage très conséquent le parc immobilier des locations, et c'est en partie pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de se loger dans toutes les grandes villes de France. En fait, qu'est-ce qu'on fait de ce lien de cause à effet entre les obligations liées au DPE et la difficulté de se loger ?
Eh bien, il y a plusieurs façons d'y arriver. D'abord, il y a aussi un sujet, c'est qu'il y a une perte. Il n'y a pas que MaPrimeRénov et le DPE qui font baisser le nombre de logements en location,
non,
parce que les Airbnb ne diminuent pas. Ce que je veux dire par là, on a fait avec la proposition de loi Echaniz-Lemeur en sorte que ça ne devienne pas contre-productif et que ça ne supprime pas du parc locatif privé des logements longue durée pour permettre aux ménages de se loger. C'est une première étape. La deuxième, c'est qu'on va s'attaquer au statut du bailleur privé. Parce que au-delà de cette question de la rénovation thermique, il y a qu'aujourd'hui, il y a plus d'appétence des petits investisseurs français pour aller mettre un peu d'argent dans l'investissement locatif abordable, dans la pierre. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils perdent plus d'argent qu'ils en gagnent, que c'est plus de problèmes que d'intérêts. Et j'ai demandé à deux parlementaires, M. Daubresse et M. Cosson, de travailler sur une proposition, sur une mission qui doit m'être rendue ce mois-ci, sur le statut du bailleur privé, pour essayer de faire des propositions dans le cadre du projet de loi de finances, pour aider à relancer l'investissement dans le parc privé. Parce que ça, c'est un problème.
Vous avez touché du doigt, Valérie Létard, la question de Jeanne, un petit peu, mais vous allez voir, elle va vous emmener un peu plus loin. Bonsoir Jeanne.
Oui,
on vous écoute.
Oui, donc ma question est la suivante. Ça serait, quelles seraient les actions possibles pour toutes les zones rurales et balnéaires qui ne cessent d'accroître ces logements secondaires et ne laissent finalement pas la place à nous, les 25-45 ans, qui souhaitent s'installer à l'année, participer à l'économie et à la vie locale de la commune. On s'est aperçu que finalement, il y a très peu d'offres de logements en location à l'année. C'est plutôt des contrats de mobilité de octobre à juin. L'augmentation des prix de vente aussi, des offres d'Airbnb qui là, il y a des offres, et beaucoup de constructions en bordure de ville finalement. Donc, est-ce que les maires ont une action là-dessus, et ou bien devons-nous légiférer davantage en faveur des propriétaires, peut-être, pour qu'ils se sentent plus en sécurité de louer au privé.
À l'année et au privé. Merci beaucoup pour votre question, Jeanne. Valérie Létard va vous répondre.
Alors, j'ai un peu entamé les choses tout à l'heure en parlant d'une initiative parlementaire que j'ai, à titre personnel, beaucoup, beaucoup soutenue et poussée pour qu'elle revienne à l'ordre du jour du Parlement et qu'elle soit aujourd'hui promulguée. Cette proposition de loi, elle donne des outils aux maires. Aux maires, surtout dans ces zones touristiques où les logements secondaires et le Airbnb prennent une place significative au détriment du logement longue durée qui ne permet plus de, effectivement, à une personne qui veut vivre à l'année dans ces zones, eh bien, d'y vivre à l'année. Ça permet de donner des outils aux maires pour réduire le nombre de journées qui peuvent être louées en Airbnb ou d'extraire une partie de son territoire de la possibilité de faire l'objet de location en Airbnb. C'est-à-dire vraiment la possibilité donnée au maire qui veut s'en emparer, qui rencontre ces difficultés, d'avoir de vrais leviers. Mais cette loi le permet. La deuxième chose, parce que j'ai entendu aussi l'attractivité de la location nue, longue durée, par exemple par rapport justement aux abattements sur le courte durée. C'est un sujet sur lequel je m'implique beaucoup, sur lequel j'ai aussi consulté Michael Cosson et Marc-Philippe Daubresse, c'est est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi les niveaux d'abattement ? Aujourd'hui, celui qui va faire du locatif longue durée, il a un abattement moins favorable que celui qui fait du courte durée. Alors, on a déjà atténué un peu les choses, mais on peut peut-être encore cheminer dans cette direction. En tout cas, je me bats pour.
Ce que vous ont répondu en partie les maires dans votre initiative, effectivement, des maires bâtisseurs, c'est de dire, au fond, pour moi, quel est l'intérêt de bâtir ? D'abord, c'est compliqué. Il y a une nouvelle complexité administrative liée notamment à la zéro artificialisation nette, etc. C'est compliqué de bâtir aussi parce qu'il n'y a plus de taxes d'habitation, donc qu'est-ce que ça va me rapporter derrière ? C'est compliqué de bâtir aussi parce que les gens qui vont s'installer ont besoin aussi des infrastructures qui vont autour. Or, les infrastructures, elles ne sont pas là. On parle des services publics, on parle de l'école, on parle de au moins un centre médical, etc. Donc, à un maire qui voudrait bien bâtir, mais qui voit ça devant lui, vous lui dites quoi ?
Ben, allez-y d'abord, quand même. D'abord, vous le savez, je me suis battue avec mon collègue Rebsamen pour qu'on ait 100 millions d'euros d'aide aux maires bâtisseurs pour tous ceux qui font l'effort de continuer à produire malgré les difficultés que vous évoquez. Donc, cette disposition-là, elle est entre les mains des préfets qui ont des enveloppes souples à disposition des maires, pas pour le logement, pour ce qui environne le logement, ce que vous dites, les équipements publics, les services publics, être aidés, faire des efforts en leur direction. Après, sur le foncier, sur les aides qu'il faut qu'on ait à disposition des maires, il y a un texte de loi qui s'appelle la proposition de loi Uvart, sur laquelle nous avons travaillé avec le député Uvart, et nous travaillons maintenant, elle est à l'ordre du jour au Sénat, cette proposition de loi de simplification, elle va donner beaucoup d'outils aux maires, nouveaux, pour réduire les délais d'instruction pour pouvoir lancer des permis de construire. J'ai voulu qu'on soit aussi au rendez-vous des maires pour leur faciliter la vie.
Valérie Létard, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pour vous, ça veut dire qu'il faudra revenir à intervalles réguliers pour répondre aux questions de nos auditeurs. Peut-être au retour de MaPrimeRénov', tiens.
Ben pourquoi
donc,
pas.
Donc, à la mi-septembre, on vous prendra au mot. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
La question des petits bateaux, c'est maintenant.
Bonjour, je m'appelle Alban, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi au football professionnel, il n'y a pas d'équipe mixte avec des hommes et des femmes. Merci de me répondre, au revoir.
Allez, la réponse dans 3 minutes.